Texte ce soir pour l'étude biblique se trouve dans le livre de Néhémie, le prophète Néhémie. C'est au chapitre 6 et nous lirons aussi des passages dans le chapitre 7. Mais notre lecture commencera au verset 6. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Très-Haut, le Dieu Très-Haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ça, c'est un peu trop. C'est Néhémie, Michée, excusez-moi. Moi, vous savez, j'ai dit le prophète Néhémie, le prophète Michée. Alors, chapitre 6, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8, et nous lirons d'autres versets plus tard. Hein. Mais dans ce passage, nous avons une question où le tout bon croyant de l'ancienne alliance pouvait se poser des questions. C'est-à-dire que vous aviez les hécatombes d'animaux qu'avait pratiqué Salomon. Et même après Salomon, il y a eu dans les réveils du temps d'Asa, et il y a eu aussi d'Ézéchias, il y a eu pour la Pâque des sacrifices immenses, il y avait des milliers d'animaux qui étaient morts. Et justement, cette multiplication d'animaux, cette multiplication de chair qui était tuée, c'est prouvé que les sacrifices étaient arrivés à leur terme. C'était comment pouvait-on ajouter hein? On ajoute un sacrifice à un sacrifice, on ajoute mille à mille, et là même il dit des myriades de torrents d'huile. C'est myriades, c'est 200 000. Voilà. Pour nous, c'est un petit chiffre. Mais à cette époque, 200 000, c'est comme nous quand on parle de milliards. C'était un chiffre énorme. C'est pratiquement, ils étaient au bout de leur calcul avec 200 000. Et alors, il dit, est-ce que je vais offrir tant de, et même ajouter au plus de plus, eh bien, je vais offrir mon premier-né. Est-ce que offrir son premier-né va faire bouger les choses? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose? Il y a un moment où l'homme se pose la question. Il se dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que ma vie doit se traîner constamment sur la terre? Est-ce que je dois toujours offrir des sacrifices? Est-ce qu'il y a une fin à la fin? Quelque chose qui doit arriver à un moment. C'est le désespoir de l'homme. Et vous aviez dans les religions païennes ce désespoir. Parce qu'ils étaient arrivés même à des sacrifices humains. Paraît-il, en Amérique du Sud, quand les conquistadors sont arrivés, c'était le sang humain coulé comme de l'eau. C'était des torrents d'eau, des torrents de sang. Les gens étaient massacrés et tués sur les autels parce qu'il n'y avait pas d'espérance. Comment peut-on être lavé de ses péchés? Comment peut-on être réconcilié avec Dieu? Les gens se rendaient bien compte qu'il y a Dieu a des exigences infinies, parce que Dieu est infini. C'est impossible que l'homme, par ses propres efforts, par ses propres vertus, puisse arriver à apaiser la colère divine. Et comment, d'un être humain, pour le salut d'un être humain, peut-on offrir des animaux? Et des myriades de torrents d'huile, noyer les animaux dans l'huile. C'était l'homme, c'est se poser cette grande question. Impossible. À vue humaine, c'est impossible. Mais il y avait une espérance. c'est que Dieu avait promis un salut. Il avait promis un sauveur. Et c'est ce que nous trouvons dans le reste de la parole de Dieu. Et dans Ésaïe en particulier, il y avait un sauveur qui était prévu, qui devait venir sur la terre, qui devait venir donner sa vie pour nos péchés, qui venait apaiser la colère de Dieu, le juste châtiment, la justice de Dieu devait être satisfaite par autre chose que des sacrifices d'animaux, et même par des sacrifices humains. C'est même tout cela ne servait à rien. Il fallait un sacrifice immense, un sacrifice au-delà de tous les sacrifices. C'est le Fils de Dieu qui devait venir sur la terre pour donner sa vie pour nous. C'est le sang de Dieu fait homme sur la terre qui a été offert pour nous, pour que nous puissions être sauvés. C'est vrai que devant les exigences de Dieu, eh bien l'homme se trouve complètement démuni. S'il regarde sérieusement, il se dit: je ne peux pas, je ne peux pas, je n'y arriverai pas. Et c'est le cri de ce prophète Michée qui dit: mais avec quoi me présenterai-je devant Dieu? Avec quoi? Qu'est-ce que je vais présenter à Dieu? Qu'est-ce qui va servir d'intermédiaire entre Dieu et moi? Quel sang va couler pour effacer mes péchés? Et puis, il y a une réponse au verset 8: on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. C'est Dieu a fait connaître à l'homme ce qui est bien. Au fond de lui-même, l'homme sait, il a une conscience, et il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, bien sûr, il y a des gens qui essayent de tuer leur conscience. Je me rappelle de ce jeune homme, c'était un fils de chrétien et il avait eu sa période de rébellion et alors il a décidé de vivre dans le péché. Il a dit: je vais vivre dans le péché jusqu'à ce que j'aie tué ma conscience. Et il l'a fait. Non, il a vécu dans la pire débauche qui pouvait exister. Et à cette époque-là, les gens étaient moins débauchés que maintenant. Il n'aurait pas choqué autant de monde qu'à son époque, aujourd'hui. Mais il a vécu dans la débauche complète. Et puis un jour, il était vraiment au bout de lui-même et il a entendu quelqu'un parler de l'Évangile. Et là, il se repentit, il s'est humilié, il est tombé à genoux, il s'est converti. Il a voulu tuer sa conscience et il n'a pas pu. Parce que la conscience, Dieu l'a mise en nous et elle est toujours là. Et c'est toujours, on peut faire un retour. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et finalement, l'homme est inexcusable, absolument inexcusable, parce qu'il est au courant de la justice de Dieu. Des exigences de Dieu, parce que Dieu a mis dans son cœur, eh bien, cette pensée de la justice, du bien. Et c'est vrai que dans notre monde où on apprend aux enfants dès le début à être corrompus, le mensonge n'est plus le mensonge, même des tout petits, hein. C'est à la maternelle, il y a une éducation négative. Où on peut dire, les institutrices de maternelle disent: écoute, on t'a frappé, toi aussi, rends-les, hein, les coups. C'est à mes enfants, on leur a dit ça. Nous, on avait dit, et surtout, il ne faut pas rendre le coup. Il ne faut pas se mettre en colère, il faut être dans la tranquillité, dans la paix. Si tu vois une querelle, une dispute, ne te mêle pas de la querelle et la dispute. Mais au contraire, on dit: mais non, il faut rendre les coups. Et c'est ce monde pervers et corrompu, qui enseigne aux enfants, dès leur plus petite enfance, qui enseigne le mal, la corruption. Et vous avez les enfants qui. Je suis coupable moi-même, hein, parce que j'ai mis mes enfants devant des bandes dessinées, devant des dessins animés que je croyais totalement innocents. Et puis, en regardant bien, je dis: mais ça, c'est pas bon, ça. Là, il y a des choses qui sont mauvaises. Ce que l'on apprend aux enfants, là, c'est mauvais. Et je peux vous dire, ce qui est pour les enfants, n'est pas bon pour les adultes, hein, souvent. C'est même vous pouvez ne pas le regarder. Mais on a fait connaître, Dieu a fait connaître à l'homme ce qui est bien. Il a mis une conscience. Mais ce monde essaye par tous les moyens de tuer notre conscience. C'est cette parole qui est donnée à Michée. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est un programme. C'est comme l'aiguille d'une boussole. C'est parfois on ne sait plus très bien où on est, mais l'aiguille de la boussole nous rappelle que c'est dans cette direction-là. Dieu nous a fait connaître ce qui est bien. Si nous sommes honnêtes, si nous sommes droits, eh bien nous appellerons le mal mal et le bien bien. Et il y a des choses que l'on va dire ça c'est mal. Et des choses on dira ça c'est bien. C'est où on dira cette personne agit droitement et cette personne agit mal. Et c'est malheureusement beaucoup de chrétiens ne savent plus même discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Il m'est arrivé parfois d'être scandalisé par des réflexions et par des manières de faire et d'être de certains chrétiens. Je dis, mais c'est pas possible. Dans le monde, on a plus de droiture que ça. Et je peux dire, j'ai fréquenté des gens du monde. C'est quand j'étais dans les milieux professionnels où il y avait de la loyauté, il y avait de la droiture. Je me rappelle un jour, quelqu'un avait parlé mal de notre collègue. L'autre lui a dit, écoute ça, non, pas ici, hein. Ici, on est une équipe. On est là pour travailler ensemble. Si on commence à parler à tort et à travers, s'il y a quelque chose à dire, on le dit ensemble et on fait ces choses-là. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Même dans certains milieux du monde, eh bien, il y a des choses que les gens savent, que si on veut faire un travail productif, un travail qui va dans le bon sens, eh bien, on évite les paresseux. On évite les gens qui tournent autour de la machine à café. Il y a des personnes qui disent, oh, écoutez, hein, les amis, la machine à café, c'est bien maintenant. Et il faut aller bosser, hein. Excusez-moi l'expression. J'ai connu ça. Les gens disent, non, non, là, on va travailler quand même, hein. Et puis, je me rappelle, parce que bon, les milieux professionnels que j'ai fréquentés étaient très stricts. Donc, la personne disait, non, non, là, maintenant, on va travailler. Et puis, même parfois, on disait, mais on n'a pas fini, hein. On va travailler une demi-heure de plus parce qu'il faut finir. Et on était tous solidaires, on était huit à travailler ensemble et on était huit liés comme ce qu'on appelle les doigts de la main, hein. Chacun était dans son domaine et remplissait son rôle. C'était comme une horloge. Chaque rouage remplit son rôle et tout tourne et marche à la perfection. C'est même dans le monde. Mais nous, souvent, en tant que chrétiens, eh bien, il y a des différences, il y a des tensions, il y a des querelles, il y a des disputes, il y a des choses que l'on dit d'une certaine manière, on s'énerve, on s'agace. Et malheureusement, eh bien, on a perdu la boussole, on a perdu la bonne direction. C'est ce que dit le prophète. Les choses sont dans notre cœur. On le sait. On le sait. Je me rappelle une époque de ma vie chrétienne, je cherchais à aller plus loin. Et je priais, je demandais au Seigneur, comment est-ce que je peux aller plus loin? Il y avait toujours un verset de 2 Corinthiens qui revenait à mon esprit. C'est la parole est près de toi, dans ton cœur. Et alors, toujours, à chaque fois que je priais, j'avais ce verset qui me revenait. Et un jour, je me dis, mais finalement, si je réfléchis bien, Dieu n'a rien à me dire, parce que je sais ce que je dois faire. Je suis au courant de ce que je dois faire. Je cherche que Dieu m'éclaire pour aller plus loin, mais en fait, je sais comment je dois aller plus loin. Et Dieu ne va pas me dire quelque chose. C'est à moi de prendre mes responsabilités et d'aller dans la bonne direction. Et alors, certains moments, et c'est ce que je conseille souvent des chrétiens, je dis arrêtez-vous. Arrêtez-vous un jour, 2 jours, 3 jours. Profitez de certains moments de vacances pour vous mettre devant le Seigneur. Mettre votre vie en accord avec la parole de Dieu. Priez, demandez au Seigneur de vous éclairer. Ne tolérez aucun péché. Ne tolérez rien. Et allez jusqu'au fond des choses. Et mettez votre vie en règle jusqu'au bout. Et là, je peux vous dire que vous allez gagner du temps. Vous dites, oui, mais je vais passer 3 jours, je ne vais pas pouvoir faire tout ce que. D'accord, mais vous allez gagner du temps. Parce que le temps que vous traînez votre misère et votre culpabilité et votre éloignement de Dieu, c'est une perte de temps. Mais ces 3 jours que vous passez à mettre votre vie en règle honnêtement devant Dieu, clairement, avec courage. Vous appelez ce que on dit, hein, un chat un chat et un chien un chien. Si Dieu dit ça c'est mal, vous dites avec Dieu ça c'est mal. Et la première personne que je condamne, c'est moi-même. Et on se met à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière du Saint-Esprit. C'est lui-même qui éclaire tous les recoins de notre vie. On va avec une entière honnêteté. On se dit, Seigneur, si tu dois me reprendre sur quoi que ce soit, alors je suis prêt. Je veux entendre ta voix me dire ce qui ne va pas. Éclaire-moi, montre-moi. Va jusque dans les ténèbres les plus profondes de mon cœur et visite-le dans chaque recoin, mais y toute ta lumière et que tout soit mis en règle. Et c'est, je peux vous dire, si vous le faites droitement, eh bien Dieu vous le montrera et vous éclairera et vous amènera à purifier votre vie et à faire confiance au sang de l'agneau pour que vos péchés soient effacés, pour que toutes ces petites choses, ce que l'on appelle aussi les petits renards, hein, c'est dans les juges, hein, il y avait les petits renards qui mangeaient, et puis c'est dans le Cantique des Cantiques, les petits renards qui mangeaient les vignes, c'est qui rongeaient la vigne. Mais c'est le Dieu nous a donné suffisamment de lumière pour que nous puissions savoir où nous en sommes. C'est malheureusement, beaucoup de chrétiens vont mal parce qu'ils ne veulent pas regarder la vérité en face. Ils ne sont pas prêts à fléchir le genou devant Dieu. C'est là qu'est le problème. Parce que on tolère des petites choses, on tolère ceci ou cela, on se dit oh ben, ce n'est pas si grave que ça. Mais c'est grave. Tout ce qui nous éloigne de Dieu est grave. Tout ce qui nous empêche d'avoir une pleine communion avec Dieu, c'est grave. Ne croyez pas qu'une petite chose est insignifiante. Non. Même les petites choses sont importantes. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, je lui confierai les grandes. Et si vous êtes fidèle dans ces petites choses, vous allez jusque dans ces choses-là, vous dites, Seigneur, je me reconnais coupable. Je m'humilie devant toi. J'ai fait ce qui est mal. Et là, eh bien, Dieu peut vous éclairer et vous amènera plus loin et vous confiera de plus grandes choses. Donc vous avez ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. On pratique la justice. On vit dans la justice. On vit dans la justice parce qu'on est justifié. Mais on pratique la justice. Nos œuvres sont des œuvres juste. Ce sont les choses qui sont selon la volonté de Dieu, selon ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est le verset 11. Est-on pur avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac? Est-ce que l'on est pur avec ces choses-là? C'est non. Si on tolère des choses comme ça, eh bien, c'est celui qui a des faux poids et une fausse balance, eh bien, c'est un malhonnête. Et Dieu dit, non, tu ne peux pas être pur. Même si tu n'as rien fait, tu n'as pas pesé quoi que ce soit, tu as quelque chose de faux. Et ce qui est faux, eh bien, c'est mauvais. Et on le met de côté, et je peux vous dire, des faux poids et des fausses balances, eh bien, on met ça à la poubelle. Ça ne sert à rien. C'est sans aucun intérêt. Il y a des choses sans intérêt. C'est leur problème. Donc, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde. Je me rappelle, il y a quelque temps, je n'étais pas très très content d'une personne, ou de plusieurs personnes même. Et puis, je lisais l'épître aux Colossiens, et le Seigneur m'a donné un verset. Il m'a dit, pardonne. S'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez. Use de miséricorde. Et c'est vrai que c'est pas facile de pardonner. Mais c'est un acte de volonté toujours, hein. C'est Dieu nous demande de le faire et nous le faisons. Et vous dites, oui, mais j'arrive pas à pardonner. Mais Dieu ne nous a pas dit pardonne quand c'est facile de pardonner ou pardonne dans certaines circonstances. C'est autant que cela dépende de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. C'est pardonner comme vous avez été pardonné en Christ. C'est un acte de volonté. On dit je pardonne. Je pardonne. C'est la personne, je la reçois juste de miséricorde. C'est la personne à ma compassion. C'est si nous vous attendons que Dieu use de miséricorde envers nous, nous devons avant user de miséricorde vis-à-vis des autres, et de patience, et de bonté, et de douceur, et d'amour, et de tous les bons fruits de l'esprit. Je peux vous dire que ces choses-là dépendent souvent de nous. On doit demander au Seigneur, il y a la part de Dieu, mais il y a aussi notre part. La plupart des chrétiens pensent que toute la part, c'est Dieu qui fait tout. Mais Dieu ne fait rien avec ceux qui ne font rien. Ceux qui n'avancent pas, ceux qui ne veulent pas avancer, eh bien, Dieu n'avancera pas avec eux. Donc c'est que tu aimes la miséricorde. On aime la miséricorde. Et puis on marche humblement avec son Dieu. Et beaucoup de chrétiens, je me rappelle ça, quand j'étais à l'institut biblique, il y avait mon camarade de chambre. Un jour, il m'a fait une confidence. Mais vraiment, il était sérieux. Il avait la tête baissée, les sourcils froncés. Les lèvres crispées, m'a dit, tu sais, je crois que Dieu m'appelle un grand ministère. Marche humblement avec ton Dieu. Il a disparu avant d'avoir fini même sa première année. Disparu. Je ne sais même pas ce qu'il est devenu. Il est parti dans un autre institut biblique parce qu'il a fait tellement de choses graves dans l'institut biblique où j'étais qu'il est parti avant qu'on le mette à la porte. Mais il est allé dans un autre institut biblique, il s'est à peu près tenu tranquille, je ne sais même pas s'il a terminé, et puis disparu totalement. Ah, mais il avait une grande confidence à faire. Et puis, parce que, bon, je le connaissais, on avait fait les colonies de vacances ensemble. Et je me rappelle tous ses mauvais coups, et c'était le mauvais garçon de la colonie de vacances, hein. Il était toujours en train de faire une bêtise. Mais ce que Dieu veut, c'est que l'on marche humblement avec lui. Humblement. Laissez-vous attirer par ce qui est humble, pas par ce qui est grand. Soyez fidèles dans les petites choses, les choses que les autres ne vont pas voir. Ils ne vont pas forcément, ils n'apprendront jamais que vous faites ceci ou cela. Mais faites-le parce que vous le faites sous le regard de Dieu, avec humilité, humblement devant ton Dieu. Toutes ces choses, c'est Dieu qui nous les a fait connaître. Il nous a fait connaître ce qui est bien. Et quand nous rencontrons des chrétiens humbles, quand nous rencontrons des chrétiens miséricordieux, qui pardonnent, qui aiment intensément les autres, qui marchent dans la justice, eh bien là, on dit ça, c'est un chrétien que j'ai à apprendre. Hein. J'en apprends de lui. Mais il y a trois aspects ici, hein, pas quatre. C'est trois choses qui sont dites. Et quand vous voyez quelqu'un marcher comme cela, vous dites, ça c'est un chrétien qui est solide dans la vie chrétienne. C'est un chrétien qui peut vraiment, dans l'Église, c'est une personne qui compte. C'est faire les choses humblement, discrètement. Il y a, vous savez, des frères et des sœurs qui prient. S'il y a une œuvre discrète, c'est la prière. Et je peux vous dire, heureusement, qu'il y a des frères et des sœurs fidèles qui prie, jour après jour, dans le secret de la présence de Dieu. Il présente l'Église, chacun des membres, chacune des personnes, tous les problèmes. Et ils sont là, ils se tiennent devant Dieu, ils marchent humblement devant leur Dieu. Ils ne cherchent pas à ce que l'on apprenne qu'ils prient ou qu'ils passent tant de temps à prier. Et il y a des personnes qui, ça leur grille d'envie hein, de le dire, ils ne marchent pas humblement avec leur Dieu. Donc quand on marche avec le Seigneur, quand on est sauvé, qu'on est né de nouveau, quand nous avons été rachetés par le précieux sang de Christ, il y a une vie nouvelle, il y a une vie différente de celle du monde. Nous n'avons pas été sauvés par des torrents d'huile, nous n'avons pas été sauvés par des myriades d'animaux, des taureaux d'un an ou des sacrifices humains. C'est ce que Pierre dit, nous avons été rachetés par le précieux sang de Christ. Et c'est ce qui fait la différence entre une religion de l'homme et la religion de Dieu. C'est toutes les religions de ce monde, ce ne sont pas des religions humbles, vous savez. Il faut grimper, il faut monter, il faut se faire voir. Mais le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, je lisais tout à l'heure Ésaïe 42, il est dit, il ne criera pas dans les rues, il ne fera pas entendre sa voix, il ne rompra pas le roseau froissé, il n'éteindra pas le lumignon qui fume. Et il l'a dit, hein. Je n'éteindrai pas le lumignon qui fume et je ne romprai pas le roseau froissé. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Prenez mon joug sur vous, car je suis doux et humble de cœur. C'est la voix du Seigneur Jésus-Christ qui nous a parlé, qui nous a convaincus, qui nous a amenés à lui. C'est la voix du bon berger. Ce n'est pas la voix d'une religion. C'est autre chose que tout ce que l'homme peut proposer. Et nous, notre réponse, eh bien, c'est le don de notre vie. C'est que lui prenne la première place, qu'il soit le Seigneur de notre vie, qu'il soit sur le trône de notre vie. Et on marche avec lui, on marche dans la justice, dans ses principes, dans son état d'esprit, dans sa manière de faire, comme il a été, nous devons être, de la même manière. C'est la même manière de faire, la même manière de se comporter. Oh, bien sûr, nous ne faisons pas des miracles, guérir des multitudes de malades et changer de l'eau en vin et faire des choses de ce genre. Mais c'est dans l'esprit de l'agneau que nous devons marcher. Il y a une similitude entre le Seigneur Jésus et nous. Et c'est cette ressemblance qui doit être mise en évidence. Et c'est comme cela que Dieu peut nous approuver. Et comme il est dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Comment savoir ce qui est bien? Mais il faut se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui marche devant lui. Et à sa manière de marcher, on apprend comment marcher. Et on voit comment il fait, comment il agit, comment il parle. Vous savez, dans l'Apocalypse, il est dit, il était comme un agneau et il parlait comme un dragon. Il ressemblait à un agneau, mais c'est tout, hein. C'est la bête, l'Antichrist. Il n'a pas la voix du bon berger. Il n'a pas la voix douce et humble. C'est toute la différence. Et puis, au chapitre 7, le verset 7, pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. J'aime beaucoup ce verset, je l'ai cité plus d'une fois pour les réunions de prière. Hein. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je regarderai vers mon Dieu. Et vous avez des multitudes de choses dans ce monde, et vous avez des gens qui sont puissants. Il y a des gens qui sont riches, il y a des gens qui sont à la tête de grands mouvements et de grandes ceci et cela. Mais tout cela passera un jour. Vous pouvez dire, pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je regarderai vers mon Dieu, Je me confierai en lui. Je ne cesserai pas d'espérer en lui. C'est le Dieu de mon. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. C'est peut-être. Non. Quand il aura le temps. Non. Mon Dieu m'exaucera. Celui qui s'attend à Dieu, qui regarde vers Dieu, ne sera ni déçu, ni confus, ni trompé, parce qu'il a regardé le Dieu vivant. C'est ce regard, vous savez, ce regard de la foi et de l'espérance, ce regard vers Dieu. Et on dit, Seigneur, viens à mon secours. Je suis dans la faiblesse. Je suis petit et faible, mais je regarde vers toi. Je me confie en toi. Et c'est parfois dans nos moments de plus grande faiblesse, eh bien, que Dieu se glorifie le plus. Et nous, nous aimerions bien être grands, d'être des puissants, de pouvoir faire beaucoup de choses. Et Dieu, eh bien, nous affaiblit pour que nous puissions compter sur lui. Et alors, à ce moment-là, nous sommes forts. C'est Paul disait, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et Dieu lui avait même donné une parole, une promesse. C'est ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et Paul disait, je peux me réjouir de mes épreuves, de mes faiblesses, de mes épreuves de toutes sortes, parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est parce que on compte sur Dieu. Et Dieu est obligé parfois de nous enlever tous nos appuis humains, tout ce qui faisait notre confiance, notre supériorité, il l'enlève pour que nous puissions nous tenir dans sa présence humblement et que l'on puisse dire, Seigneur, je compte sur toi, je m'attends à toi. Je voudrais partager une dernière série de versets. C'est la fin du chapitre 7. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Voilà, ça c'est la réalité. Après, vous dites, mais j'ai trop de péchés dans ma vie. Et je peux dire, parfois on dit, Seigneur, il y a un psaume qui dit, mes péchés s'élèvent comme un lourd fardeau au-dessus de ma tête. Et on a envie de répéter cette parole, dire, mais comment arriver à gérer tout ça? Je me sens coupable de tant de choses. Il y a tant de choses qui pèsent sur moi. Tant d'échecs, tant de difficultés, tant de problèmes, tant d'inconséquences, tant de timidité, tant de tiédeur, tant de ralentissement, de manque de zèle, de consécration. On se dit, mais Seigneur, je ne peux pas y arriver. Et c'est justement quand on dit, c'est quand on en arrive là, eh bien que Dieu peut nous utiliser. Quand on dit, Seigneur, c'est trop grand pour moi. Je suis dépassé. C'est au-delà de mes forces. Et on dit, mais quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés? Dieu nous demande d'être miséricordieux. Il veut que nous pratiquions la miséricorde, parce que lui-même la pratique. Il ne nous punit pas selon nos péchés. Il ne nous châtie pas selon nos désobéissances. Il use de patience, il use de grâce, et il est prêt à pardonner celui qui se tourne vers lui et qui veut revenir totalement et vraiment, eh bien, peut le faire. Il suffit simplement de s'humilier devant Dieu et de reconnaître son péché. Comme je vous ai dit au début, eh bien, il faut parfois s'arrêter, passer un peu de temps. Et je dis 3 jours. Je peux vous dire. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Un jour, c'était à Toulouse. Mon adresse était trop connue. Alors je suis allé à l'hôtel, carrément, hein. J'ai pris une chambre d'hôtel. Alors personne ne savait que j'étais dans cette chambre d'hôtel. C'était pas loin de chez moi, mais personne ne savait que j'étais là. Donc, à l'époque, on n'avait pas de téléphone ni portable ni fixe, j'avais rien de tout ça. Donc, personne ne pouvait me déranger avec le téléphone. Mais il y avait des personnes qui savaient où j'habitais et ils pouvaient venir. Et je voulais passer du temps seul avec Dieu. Et j'ai passé 3 jours. Et au bout de 3 jours de prière, de méditation de la parole de Dieu, je suis parti. J'ai dit, bon, ouais, voilà, j'ai fait. Mais je me sentais ni mieux ni pire. Je ne sentais pas que j'avais vraiment une solution. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a invité à prêcher. Et je suis allé prêcher, donc ça s'est passé le mercredi, jeudi et vendredi. Et on m'a demandé de prêcher le dimanche. Je suis allé, j'ai prêché. Mais je peux vous dire que les gens étaient bouleversés et qu'ils pleuraient. Je ne savais pas que la prédication pouvait être quelque chose d'aussi puissant. Mais 3 jours dans la présence de Dieu, je n'avais pas l'impression qu'il s'était passé quelque chose dans ma vie. Mais Dieu avait fait quelque chose. Il ne nous dit pas, tu deviens maintenant vraiment un astre brillant, hein, je t'ai bien astiqué. C'est tout ça, c'est il ne dit pas. C'est si on marche fidèlement, alors Dieu se glorifiera dans nos vies. C'est je vous ai dit cela parce que je ne savais pas ce que ça pouvait être, passer 3 jours dans la présence de Dieu, dans la méditation et l'étude de la parole de Dieu et la prière. C'est, je ne savais pas. Et ça, j'étais très très surpris quand je me suis rendu compte de la puissance qu'il y avait à ce moment-là. Et il y a une personne qui m'a dit, là le Seigneur m'a dit des choses que jamais j'avais imaginé, que je ne me rappelle même plus ce que j'ai dit à cette époque, hein, pour vous dire. Mais les personnes sont venues parce que il y avait quelque chose qui s'était passé. Mais je ne m'en rendais pas compte. Je ne m'en rendais pas compte. C'est quand on fait les choses droitement et fidèlement, alors il n'y a aucune raison que Dieu ne vienne pas à notre secours et qu'il ne fasse pas son œuvre dans notre vie. Et le plus faible, celui qui se sent le plus petit, le plus diminué, eh bien s'il est fidèle et qu'il marche droitement avec Dieu, eh bien il va devenir un homme fort et vaillant, ou une femme forte et vaillante, qui remportera des victoires et qui pourra faire l'œuvre de Dieu d'une manière merveilleuse, au-delà de toute imagination humaine. Parce que notre Dieu a fait des promesses. Il l'a dit. Et nous pouvons faire confiance à Dieu. Je mettrai mon espérance dans le Dieu vivant. Je vous relis ce verset. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Mais il y a des si. Si on remplit les conditions, alors mon Dieu m'exaucera. Il agira, il répondra. Il répondra d'une manière si grande et si merveilleuse que aucune parole humaine ne peut exprimer ce que Dieu fait. C'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est Dieu qui agit dans un être humain. C'est la gloire n'est pas à l'homme. Ce que Dieu demande de toi, c'est que tu marches humblement devant ton Dieu. C'est Dieu peut vous faire faire des expériences extraordinaires avec lui, dans sa présence, de communion et de vraiment, et vous peut vous amener très loin dans la vie chrétienne. Mais marchez humblement dans la présence de Dieu, humblement, fidèlement, dans la justice, dans la miséricorde. Vous savez que vous avez obtenu miséricorde. Usez de miséricorde. Pardonnez parce que vous avez été pardonné. Aimez parce que vous êtes aimé. Humiliez-vous devant Dieu parce que l'homme a besoin de s'humilier devant Dieu. Il n'est qu'un homme, qu'un être humain, et c'est le grand Dieu, le Dieu tout-puissant. C'est vers lui que nous tournons. C'est en lui que nous espérons. C'est vers lui que nous tournons les regards. Et notre Dieu, c'est le grand Dieu. C'est dans l'épître aux Hébreux, il est dit, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Terrible. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Ce sont les versets négatifs de l'épître aux Hébreux. C'est... On s'approche humblement de Dieu. C'est notre Père, mais c'est notre Dieu. Et on se tourne vers lui. Et on lui dit, Seigneur, je veux t'aimer encore plus. Je veux vivre plus près de toi. Je veux marcher dans ta communion. Je veux marcher dans une vie toujours plus consacrée. Une vie où toi, tu as vraiment la première place. Et moi, eh bien, je suis à ton service. Je suis à tes pieds pour faire ta volonté, t'obéir en toutes choses.